Notre lecture biblique se trouve aujourd'hui dans 1 Pierre, chapitre 4, versets 17 et 18. Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si c'est à grand-peine que le juste est sauvé, que deviendront l'impie et le pécheur? Les paroles aujourd'hui de notre lecture biblique résument le sujet de notre étude aujourd'hui. Le jugement commence par la maison de Dieu. C'est tout un sujet sur lequel la Bible s'étend et élargit depuis de nombreux angles, et c'est un sujet qui est tout particulièrement cher aux adventistes du septième jour. Et c'est un sujet qui nous est cher parce que il nous est présenté dans la Bible comme un endroit où nous nous arrêtons pour examiner nos âmes à la lumière de la fin du temps de grâce. Et aujourd'hui, nous passons par des expériences dans lesquelles nous avons besoin de lumière pour éclairer notre sentier. La Bible nous dit que ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et la parole de Dieu vient illuminer chacune de nos expériences, et si elle ne vient pas illuminer nos expériences, nous sommes dans les ténèbres. Mais Jésus a dit que si nous le suivons et que nous l'acceptons et que nous communions avec lui, nous ne marcherons pas dans les ténèbres parce qu'il est la lumière du monde. Mais nous avons besoin de le connaître tel qu'il est et de l'accepter tel qu'il se présente à nous. Et donc, comme on le lit dans cet hymne, je connais un guide infaillible qui constamment veille sur moi. Sur ses pas, je poursuis paisible la sainte course de la foi. Conduit par toi, céleste guide, je me dirige vers les cieux, et mon sentier sous ton égide devient toujours plus radieux. Et qu'il en soit ainsi pour chacun de nous alors que nous écoutons les paroles du céleste guide. Donc aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est on revient sur la continuité de notre étude précédente où nous avons appris clairement, à la lumière de la parole, que nous sommes en tant qu'enfants de Dieu appelés à sa gloire. Et pour récapituler ce que nous avions vu précédemment, nous voulons nous tourner tout de suite dans Romains chapitre 8. Dans Romains chapitre 8, au verset 29 à 30. Nous lisons que « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être conformes à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. » Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc en harmonie avec ce que nous avions appris la dernière fois, nous constatons à la lumière de la parole de Dieu, des nombreuses choses que nous voyons dans la parole, que Dieu a créé l'homme à son image, mais que l'homme est déchu, l'homme est tombé par sa désobéissance, que nous connaissons sous le nom de péché, Et l'image de Dieu a été effacée dans l'homme. L'homme est désormais privé et dénué de la gloire de Dieu et nous ne voyons plus l'ouvrage premier de Dieu. L'image de l'homme, de Dieu en l'homme a été effacée par cette désobéissance. Mais nous voyons Jésus et nous lisons que Dieu nous a prédestinés à être conformes à l'image de son Fils. Et que ceux qu'il a ainsi prédestinés, il les appelle et il les justifie et il les glorifie. Donc toute personne qui confesse Jésus-Christ a été appelée à sa gloire, à être conforme à l'image de son Fils. Et ceci, cet appel a toujours été l'appel pour le croyant. Cela a toujours été le message de l'Évangile. Mais en ces derniers temps, nous voyons que l'appel est plus pertinent que jamais. L'appel qui a toujours été le même prend aujourd'hui toute sa dimension, toute son ampleur. Parce que toutes les choses sont révélées maintenant dans la parole de Dieu qui n'était pas avant comprise, de telle sorte que aujourd'hui, en ces derniers jours, nous avons la pleine lumière de l'Évangile éternel. Et le message aujourd'hui tel qu'il nous est transmis est celui que nous lisons dans Apocalypse chapitre 14, au verset 6. Et 7. Apocalypse chapitre 14, versets 6 et 7. Et je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel, portant l'évangile éternel pour l'annoncer à ceux qui habitent sur la terre, à toute nation et tribu et langue et peuple, en disant d'une voix forte : craignez Dieu et lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources des eaux. Donc nous sommes appelés à lui donner gloire, mais ici c'est un message tout particulier parce que c'est le message de l'ange qui porte l'évangile éternel. Et ce message n'a jamais été prêché par le passé. Les apôtres parlaient du jugement comme à venir. Martin Luther voyait le jugement comme 300 ans dans son futur. Et nous lisons maintenant, pour nous éclairer sur ce sujet, les paroles de la tragédie des siècles. Et avant d'y aller, nous voulons nous tourner vers les paroles de Daniel, chapitre 8, verset 14. Daniel, chapitre 8, au verset 14. Parce que nous sommes appelés ici à donner gloire à Dieu parce que l'heure de son jugement est venue. Et maintenant, on a besoin de comprendre quand est-ce que l'heure de son jugement vient. Dans Daniel chapitre 8, verset 14, nous lisons « Et il me dit jusqu'à 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Et ensuite au verset 17, et il vint près du lieu où je me tenais, disait Daniel, et à sa venue, je fus épouvanté et je tombai sur ma face et il me dit, comprends, fils de l'homme, car la vision est pour le temps de la fin. Maintenant, ce sujet, cela requiert beaucoup de temps et une étude approfondie et dans un seul message, cela ne me permet pas d'aller dans tous les détails, mais pour arriver droit au but, On veut lire les paroles de la tragédie des siècles, page 443, au paragraphe 1. Et là, l'esprit de prophétie nous aide à comprendre quand est-ce que ces paroles de Daniel ont trouvé leur accomplissement en parallèle avec les paroles d'Apocalypse, chapitre 14, versets 6 à 7. Et ici, je ne fais aucune excuse pour repasser sur un sujet que de nombreuses personnes connaissent, parce que je sais pertinemment que c'est devenu un sujet dont les gens se sont lassés parce qu'il n'est plus présenté comme il l'était présenté jadis, avec toute la pertinence du moment présent avec lequel il était alors présenté. Nous lisons 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Cette déclaration, la base et la colonne centrale de la foi adventiste, était familière à tous les amis du prochain retour de Christ. Répétée par des milliers de bouches, elle était comme le mot d'ordre de leur foi. Tous étaient convaincus que leurs espérances les plus glorieuses et les plus chères dépendaient des événements prédits dans ce passage dont la période prophétique expirait en l'automne de 1844. Donc, pour faire court, ce passage avait été le fondement des efforts de William Miller à partir de l'an 1833. Il avait étudié la Bible et avait décidé de ne plus se baser sur les commentaires bibliques d'autres croyants, mais de laisser la Bible s'interpréter elle-même sans lui ajouter des métaphores là où elle ne s'interprétait pas elle-même par des métaphores, et en lisant littéralement là où la Bible ne se proposait pas de donner un autre sens que son sens littéral. Et il est tombé sur ce passage de Daniel chapitre 8 verset 14, et après de nombreuses études et comparaisons, il a découvert que ce passage, que cette prophétie des 2300 jours ou soir et matin, avait son début au début de la prophétie de Daniel chapitre 9, au début des 70 semaines. Parce que au verset 25 du chapitre 9, il est écrit: sache-le donc et comprends, depuis l'émission de la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem jusqu'au Christ, le conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis, mais en un temps fâcheux. Et après les 62 semaines, le Christ sera retranché, et non pour lui, et le peuple d'un conducteur qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin sera dans ce débordement. Les désolations sont déterminées jusqu'au terme de la guerre. Et donc là, William Wheeler avait compris que ces 70 semaines étaient la première période comprise dans les 2300 jours, ces 70 semaines équivalent à 490 jours, il avait compris que, en trouvant qu'après les 62 semaines, Christ serait retranché, il a soustrait cela et il s'est retrouvé à la parole ordonnant de retourner et de rebâtir Jérusalem, qui était un décret d'Artaxerces qui avait été émis en 457 avant Jésus-Christ. C'est comme cela qu'il a pu décrypter cette prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14 en la lisant à la lumière de la suite qui lui venait à partir du verset 23 du chapitre 9 jusqu'au verset 26. Donc je continue de lire. Avec tout le monde chrétien, les adventistes croyaient alors que la terre, en totalité ou en partie, constituait le sanctuaire et que la purification du sanctuaire signifiait l'embrasement du globe par le feu au dernier jour. C'est-à-dire au moment du retour du Seigneur qui, selon cette interprétation, devait se produire en 1844. Je continue. Or, le temps fixé avait passé et le Seigneur n'était pas revenu. Donc, William Miller et tous ceux qui ont cru à sa prédication et à la prédication de ses collègues dans ce message s'attendaient à ce que Jésus-Christ revienne le 22 octobre 1844. Qu'il revienne et qu'il purifie cette terre qu'il croyait alors être le sanctuaire, comme nous l'avons lu ici. C'était leur attente. Ils attendaient l'avènement, le second avènement de Christ, et c'est pour cela que le nom leur a été donné d'adventistes. Ils étaient adventistes. Ils attendaient le retour de Jésus. Mais cependant, le temps fixé est passé et le Seigneur n'est pas revenu. Mais ils savaient que leur calcul était correct parce qu'ils avaient une foi forte et ferme que ces calculs étaient fondés sur une interprétation strictement littérale des paroles claires de la prophétie de Daniel allant du chapitre 8, verset 14 à la fin du chapitre 9. Donc nous lisons que « Mais les croyants savaient que la parole de Dieu ne peut faillir. Il fallait donc qu'il y eût quelque erreur dans leur interprétation de la prophétie. Mais où était cette erreur ? Un grand nombre pensèrent avoir résolu le problème en niant que les 2300 jours se fussent terminés en 1844. Sur quoi basaient-ils leur affirmation ? Uniquement sur le fait que Jésus n'était pas revenu au moment où on l'attendait. Ils prétendaient que si les 2300 jours avaient pris fin en 1844, le Seigneur serait venu pour purifier la terre par le feu et que, du moment qu'il n'était pas venu, l'aboutissement de la prophétie en question ne coïncidait pas avec cette date. Nous continuons. Accepter cette conclusion, c'était renoncer au calcul adopté pour les périodes prophétiques. On avait constaté que les 2300 jours partaient de l'automne de l'année 457 avant notre ère, date à laquelle était entré en vigueur le décret d'Artaxerces ordonnant la restauration et la reconstruction de Jérusalem. En prenant cette date comme point de départ, on se rendit compte que les événements jalonnant cette période, d'après le texte de Daniel chapitre 9, versets 25 à 27, s'étaient parfaitement accomplis. Et donc là, elle réitère ce que je viens de dire, 69 semaines, soit les 483 premières années de cette période devaient aboutir au Christ, à loin ou Messie. Or, le baptême et l'onction de Jésus qui eurent lieu en l'an 27 se produisir exactement à la date fixée. Au milieu de la 70e semaine, le Messie devait être retranché. Or, Jésus avait été crucifié juste 3 ans et demi après son baptême, au printemps de l'an 31 de notre ère. Et comme les 70 semaines ou 490 ans étaient exclusivement réservés au peuple juif, à l'expiration de cette période, en l'an 34 de notre ère, Israël, ayant définitivement rejeté le Christ en persécutant ses disciples, les apôtres s'étaient tournés vers les gentils. Les 490 premières années écoulées, il restait encore 1810 ans de la période des 2300, si l'on ajoute 1810 à l'an 34, on aboutit à l'année 1844. C'est alors, dit l'ange, que le sanctuaire sera purifié. Tous les détails de la prophétie s'étaient donc accomplis à point nommé. Nous poursuivons. Avec ce calcul, tout cela était clair et concordant, sauf un seul point. Aucun événement répondant à la purification du sanctuaire n'avait marqué l'année 1844. Nier que cette période aboutit à cette date, c'était tout remettre en question et renoncer à des positions établies par d'indéniables accomplissements de la prophétie. Donc voilà, ils en étaient arrivés à cette date de du 22 octobre 1844 qui était passée. Maintenant, de nombreuses personnes qui avaient eu foi en ce message de William Miller et de ses acolytes s'étaient désormais retournées sur ce message et sur ce qu'il avait prêché et avaient renoncé à la foi qu'ils avaient parce que l'événement auquel ils s'étaient attendus ne s'était pas accompli selon leurs attentes. Ils avaient donc décidé que tous leurs calculs étaient mauvais et que leur interprétation de la prophétie et des périodes de la prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14 étaient également incorrectes. Mais cependant, d'autres continuèrent à étudier la parole pour voir là où ils s'étaient trompés. Ils ne remirent pas tout en question, simplement ils comprirent par une étude approfondie de la Bible que leur mécompréhension du texte de Daniel chapitre 8 verset 14 ne reposait pas dans le calcul des périodes concernées, mais dans leur interprétation du sanctuaire. C'est pour ça que nous lisons à la page 445 de la Tragédie des siècles au paragraphe 3. Cette étude les amena d'abord à la conclusion que rien dans les Écritures ne soutenait la croyance populaire selon laquelle la terre serait le sanctuaire. En revanche, ils y trouvèrent un exposé complet de la question du sanctuaire, de sa nature et de ses services. Au fait, le témoignage des auteurs sacrés était si étendu et si clair que l'hésitation était impossible. Voilà donc, ils se sont mis à étudier le sujet du sanctuaire et ils ont compris d'où était venue leur désappointement, leur terrible déception du fait que Jésus n'était pas revenu, et tout un sujet s'est révélé à leurs yeux. Le sujet du sanctuaire leur a été révélé par l'étude de la parole de Dieu. Et parmi les nombreuses choses qu'ils ont découvertes dans la parole sur ce sujet fondamental, nous voulons maintenant nous arrêter sur quelques-unes qui nous permettent de discerner les points clés qui leur ont permis de venir à la nouvelle compréhension biblique sur la nature du sanctuaire dont il était question dans la prophétie de Daniel chapitre 8, verset 14. Et pour cela, nous allons tout de suite dans Hébreux chapitre 9. Hébreux chapitre 9, en partant du verset 1. En lisant dans la Bible Martin. L'apôtre Paul ici nous disait: après avoir parlé de la nouvelle alliance dont Jésus-Christ est le médiateur, il nous dit que le premier tabernacle avait donc des ordonnances touchant le culte divin et un sanctuaire terrestre. Les Hébreux avaient un sanctuaire terrestre. C'était le sanctuaire dont toutes les instructions leur avaient été confiées et transmises par l'entremise de Moïse. Verset 2, « Car il fut construit un premier tabernacle, appelé le lieu saint, dans lequel était le chandelier et la table et les pains de proposition. » Et après le second voile était le tabernacle qui était appelé le lieu très saint, ayant un encensoir d'or et l'arche de l'alliance entièrement couverte d'or tout autour, dans laquelle était la cruche d'or où était la manne et la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et au-dessus de l'arche étaient les chérubins de gloire faisant ombre sur le propitiatoire. Dès quelle chose il n'est pas besoin maintenant de parler en détail. Or ces choses étaient ainsi disposées, les sacrificateurs entrent bien toujours dans le premier tabernacle pour accomplir le service, mais le seul souverain sacrificateur entre dans le second une fois l'an, mais non sans y porter du sang, lequel il offre pour lui-même et pour les fautes du peuple. Donc, le sanctuaire terrestre des Hébreux avait deux compartiments, l'un s'appelant le lieu saint, là où se trouvait l'encensoir, là où se trouvait le chandelier et la table avec les pains de proposition et avec l'autel des parfums, et le second qui s'appelait le lieu très saint où se trouvait l'encensoir d'or et l'arche de l'alliance dans laquelle il y avait la cruche avec la manne et la verge d'Aaron et les tables des 10 commandements. Tout le temps, continuellement, les sacrificateurs entraient bien dans le premier tabernacle qui s'appelle le lieu saint pour accomplir le service du sanctuaire terrestre. Mais seul le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, au-delà du voile, du second voile, une fois par an. Et il y entrait pour les fautes du peuple. Nous allons revenir sur ce détail. Nous continuons au verset 8. Le Saint-Esprit faisant ainsi connaître par là que le chemin des lieux saints n'était pas encore manifesté, tandis que le premier tabernacle était encore debout, lequel était une figure destinée pour le temps d'alors, durant lequel étaient offerts des dons et des sacrifices qui ne pouvaient point sanctifier la conscience de celui qui faisait le service, ordonné seulement en viande, en breuvage, en diverses ablutions et en des cérémonies charnelles jusqu'au temps que cela serait redressé. Mais Christ étant venu pour être le souverain sacrificateur des biens à venir, par un plus excellent et plus parfait tabernacle, qui n'est pas un tabernacle fait de main, c'est-à-dire qui soit de cette structure, il est entré une fois dans les lieux saints avec son propre sang, et non avec le sang des veaux ou des boucs, après avoir obtenu une rédemption éternelle. Versets 23 et 24, il a donc fallu que les choses qui représentaient celles qui sont aux cieux fussent purifiées par de telles choses, mais que les célestes le soient par des sacrifices plus excellents que ceux-là. Car Christ n'est point entré dans les lieux saints faits de mains, qui étaient des figures correspondantes aux vrais, mais il est entré au ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Donc nous voyons clairement que on nous présente ici le premier tabernacle et ses services, le tabernacle terrestre, le sanctuaire terrestre, qui comportait deux compartiments ou deux appartements, le lieu saint et le lieu très saint. Le lieu saint comprenant le chandelier et la table des pains de proposition et l'autel des parfums, et le lieu très saint comprenant l'encensoir d'or qui était une espèce de boule tenue le long d'une chaîne par le souverain sacrificateur, et le lieu très saint avait aussi et principalement l'arche de l'Alliance, dans lesquelles se trouvait la loi des 10 commandements écrite sur les 2 tables par le doigt de Dieu. Ces choses, on nous dit, étaient l'image et l'ombre des choses célestes. Mais Christ n'est pas entré dans les lieux saints faits de main, c'est-à-dire qu'il n'est pas entré dans le sanctuaire terrestre, mais il est entré dans le sanctuaire céleste. Dans le vrai, il est entré au ciel même, là où il comparaît maintenant pour nous. C'est ce que nous lisons dans le chapitre 8 au verset 1. Or, l'abrégé de notre discours, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu dans les cieux, ministre du sanctuaire et du vrai tabernacle que le Seigneur a dressé, et non pas les hommes, car tout souverain sacrificateur est ordonné pour offrir des dons et des sacrifices. C'est pourquoi il est nécessaire que celui-ci aussi ait eu quelque chose pour offrir. Verset 4. Vu même que s'il était sur la terre, il ne serait pas sacrificateur pendant qu'il y aurait des sacrificateurs qui offrent des dons selon la loi, lesquels font le service dans le lieu qui n'est que l'image et l'ombre des choses célestes, selon que Dieu le dit à Moïse quand il devait achever le tabernacle. Or, prends garde, lui dit-il, de faire toutes choses selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc ce sont les choses que les adventistes ont découvert, que le sanctuaire qu'ils s'attendaient à voir purifié, n'étaient pas la terre, donc ils s'attendaient à voir une purification de la terre, et puisqu'ils n'ont pas vu cette purification de la terre, ils ont été terriblement déçus, parce qu'ils n'ont pas vu le retour de Jésus. Mais en étudiant la Bible, ils ont trouvé ce message clair sur la réalité du sujet du sanctuaire. Et ils ont compris que Jésus est le ministre du véritable tabernacle et que les services du tabernacle terrestre n'étaient qu'une image et l'ombre du céleste. Et si nous revenons dans Hébreux chapitre 9, verset 7, nous voulons nous attarder sur cette partie-là parce que c'est cette partie qui a permis de comprendre et de relier tous les passages de la Bible entre eux par les adventistes. Chapitre 9, verset 7, « Mais seul le souverain sacrificateur entre dans le second, c'est-à-dire dans le lieu très saint, une fois l'année, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. » Donc, une fois par an, le souverain sacrificateur entrait dans le lieu très saint, non sans porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Cependant, lui, le souverain sacrificateur, dans les services du sanctuaire terrestre, offrait du sang pour lui-même parce qu'il était lui-même pécheur. Et cela faisait partie de l'ombre et de l'image des choses célestes qui sont plus élevées, plus exaltées, plus nobles, plus sacrées. Mais Jésus est le ministre du véritable sanctuaire céleste et il est entré dans les lieux saints. Il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. Et il n'est pas entré dans un sanctuaire fait de mains d'hommes, mais il est entré avec son propre sang et lui n'a pas besoin d'offrir pour ses propres péchés, il va donc, comme une fois l'an, le souverain sacrificateur dans le sanctuaire terrestre, Jésus irait donc à un certain moment dans le lieu très saint pour les péchés du peuple. C'est ce que nous lisons dans Lévitique, chapitre 16, au verset 29. Donc ces choses que nous lisons ici étaient l'image et l'ombre des choses célestes. Nous voulons garder cela à l'esprit. Donc elles étaient là pour servir de leçon et pour préfigurer des choses qui seraient plus tard accomplies en Christ, qui trouveraient leur accomplissement en Christ. De sorte que nous lisons que les sacrifices des boucs et des agneaux préfiguraient le sacrifice de Christ. Et donc, ce que nous lisons ici dans Lévitique chapitre 16, du verset 29 à 31, devait aussi être quelque chose qui préfigurerait une réalité supérieure qui se réaliserait en Jésus-Christ. Nous lisons. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au septième mois, le dixième jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous, car en ce jour on fera l'expiation pour vous, afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes, c'est une ordonnance perpétuelle. C'est intéressant parce qu'il n'y a pas marqué « c'est une ordonnance temporaire ». C'est une ordonnance perpétuelle. Donc ce serait un statut qui trouverait encore une fois un accomplissement même au-delà de la dispensation juive. Même sous la nouvelle alliance en Jésus-Christ, à la lumière de la croix. Et nous continuons au verset 16. Et il, le souverain sacrificateur, fera l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion à tous leurs péchés. Il fera de même pour le tabernacle d'assignation qui demeure avec eux au milieu de leurs souillures. Donc c'est directement quelque chose qui vient compléter et interpréter et nous expliquer la prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14. Le souverain sacrificateur faisait une fois par année l'expiation pour le sanctuaire à cause des souillures des enfants d'Israël. Ça veut dire que à chaque fois qu'un croyant venait confesser son péché sur un animal toute l'année durant, le sang de cet animal était pris par le sacrificateur toute l'année durant et apporté à l'intérieur du sanctuaire. Mais une fois par an, le jour des expiations, que l'on appelle en hébreu Yom Kippour, le souverain sacrificateur venait faire quoi ? Il entrait dans le lieu très saint, comme nous l'avons lu dans Hébreux chapitre 9, verset 7, pour faire l'expiation pour le sanctuaire, à cause des souillures des enfants d'Israël et de leur rébellion en tous leurs péchés. Donc il venait purifier le sanctuaire. Il faisait l'expiation pour le sanctuaire. Ce sont des mots très importants parce que cela, la parole est censée s'interpréter elle-même. Et Dieu ne laisse rien en suspens dans sa parole que l'on ait besoin de comprendre. Donc, nous voyons clairement que ce que les adventistes ont compris, c'est que une nouvelle activité se présenterait à eux, c'est-à-dire que désormais, ils entraient dans une œuvre de purification. Et c'est là que cela nous amène dans les choses vraiment intéressantes pour nous. Parce que ces choses-là, je sais pertinemment que les adventistes du septième jour, pour de nombreuses personnes, cela semble rébarbatif. Mais en réalité, comme nous allons le voir, c'est essentiel pour nous de revisiter ces choses pour que nous puissions fonder notre expérience sur le fondement qui a été pris par les adventistes du septième jour dès leur début. Nous allons maintenant dans Daniel chapitre 7, versets 9, 10 et 13. Et Daniel a vu en vision, je regardais jusqu'à ce que des trônes furent placés et que l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, ses roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu sortait et se répandait de devant lui. 1000 milliers le servaient et 10 000 millions se tenaient devant lui. Le jugement se tint et les livres furent ouverts. Donc on a un jugement comme on l'a vu dans Apocalypse chapitre 14 verset 7 où le peuple qui prêche ce message avait commencé à prêcher, l'ange qui prêche ce message dit « Craignez Dieu ». Et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et ici, nous voyons que le jugement se tint et les livres furent ouverts. mais la manière de comprendre de quoi il s'agit parfaitement se trouve au verset 13. Je regardais dans ces visions de la nuit et je vis comme le Fils de l'homme qui venait sur les nuées des cieux, et il vint jusqu'à l'Ancien des jours et on le fit approcher de lui. Donc, ce qui se passe ici, c'est que dans le sanctuaire céleste, qui est extrêmement plus grand et plus élaboré que l'était le sanctuaire terrestre, vous avez ici l'Ancien des jours, des trônes qui sont placés, l'Ancien des jours qui s'assoit, et son trône est comme des flammes de feu et ses roues comme un feu ardent. C'est-à-dire que c'est un trône qui se déplace. Et d'abord, le Père est vu comme se déplaçant dans le lieu très saint. Et ensuite, nous voyons le Fils de l'homme qui vient également sur les nuées des cieux et qui vient à l'Ancien des jours et qui s'approche de lui et qui s'assoit sur son trône. Et c'est ça la réalité du jour des expiations où le souverain sacrificateur entre dans le lieu très saint pour purifier le sanctuaire. Et ce jour du jugement, ce jour des expiations, qui sont exactement la même chose, a commencé en 1844. Date à laquelle la prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14 a pris fin et a trouvé son accomplissement. C'est donc à cette date que s'appliquent ces paroles de Daniel. Nous allons maintenant, pour élargir cela, dans la tragédie des siècles, à la page 456, au paragraphe 2. Il est écrit: pendant 18 siècles, Jésus a exercé son sacerdoce dans la première pièce du sanctuaire. Son sang a plaidé en faveur des croyants repentants, assurant leur pardon et leur réconciliation avec le Père. Cependant, leurs péchés subsistaient encore sur les registres du ciel. De même que dans le culte mosaïque, l'année se terminait par un acte de propitiation, de même le ministère du Sauveur pour la rédemption des hommes est complété par une œuvre d'expiation ayant pour but d'éliminer les péchés du sanctuaire céleste. C'est exactement ce qu'on a lu, n'est-ce pas, dans cette analyse des passages d'Hébreux chapitre 8 et 9 et de Lévitique chapitre 16, etc. Cette œuvre commença à la fin des 2300 jours. À ce moment, selon la prophétie de Daniel, notre souverain sacrificateur entra dans le lieu très saint où il s'acquitte de la dernière partie de sa mission sacrée, la purification du sanctuaire. Et là, elle nous fait le parallèle entre cette activité du jour des expiations telle qu'elle nous est décrite dans Lévitique chapitre 16 et cette activité dont il est question de Daniel chapitre 8 verset 14. De même qu'anciennement les péchés du peuple étaient placés par la foi sur la victime pour le péché et par le sang de cette dernière transférés en image dans le sanctuaire terrestre, ainsi, dans la nouvelle alliance, les péchés de ceux qui se repentent sont placés figurativement par la foi sur le Sauveur et littéralement dans le sanctuaire céleste. Littéralement. Ça veut dire que, au temps des Hébreux, dans la dispensation mosaïque, lorsqu'ils se repentaient, leur péché était placé en image dans le sanctuaire terrestre, mais ils étaient placés littéralement dans le sanctuaire céleste. Et aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Nos péchés sont placés, nos péchés, si nous nous en repentons, sont placés figurativement par la foi sur Jésus et littéralement dans le sanctuaire céleste. Et je continue. Et de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l'enlèvement des péchés qu'il avait souillés, ainsi il faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l'élimination, par l'effacement des péchés qui y sont inscrits. C'est là que ça devient très intéressant. Il faut que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l'élimination, l'effacement des péchés qui y sont inscrits. Donc on a accepté, compris, réalisé et on est affermi dans notre confiance et notre connaissance du fait que la prophétie de Daniel chapitre 8 verset 14 a bel et bien trouvé son accomplissement en 1844. Et en ajoutant à cela, on a compris que la purification du sanctuaire dont il est question dans ce passage de Daniel chapitre 8 verset 14 est une purification du sanctuaire céleste, une purification littérale. Maintenant, on se penche davantage sur la signification concrète et personnelle de cette purification du sanctuaire céleste, cette purification littérale, et nous voyons qu'il faut que ce sanctuaire subisse une réelle purification par l'effacement de nos péchés qui y ont été inscrits par notre repentance. Donc c'est vraiment tangible, vous voyez, frères et sœurs, nous avons affaire avec une œuvre concrète de repentance et une purification littérale. De même que nous avons un Sauveur ressuscité et vivant qui est assis à la droite du Dieu vivant. Ça nous sort un peu de cette mentalité théorique rébarbative de l'adventisme du septième jour aujourd'hui, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons besoin, c'est d'être sortis du train-train, pour ainsi dire, de la doctrine qui est répétée sans réel engouement et de nous engager dans une compréhension vivante et un engagement vivant de ce à quoi nous sommes appelés. Je continue. Mais cela, cet effacement des péchés, n'est possible que si les registres du ciel ont été préalablement examinés pour déterminer quels sont les mortels qui, par la foi en Jésus, se sont mis au bénéfice de son expiation. La purification du sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire. Or, cette enquête doit précéder la venue du Seigneur, puisqu'il vient pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. Je continue. Et voilà comment les adventistes qui marchaient dans la lumière de la parole prophétique comprirent que leur sauveur, au lieu de descendre du ciel à la fin des 2300 ans, en 1844, était entré dans le lieu très saint du sanctuaire céleste pour y achever l'œuvre de propitiation devant préparer sa venue sur la terre. Et donc cela, tout ce qu'on vient de lire, nous en retirons que la purification du sanctuaire comporte donc une enquête judiciaire. Et vous savez ce que c'est aujourd'hui? Une enquête judiciaire, cela requiert toutes les informations sur la personne qui peuvent être rassemblées et un examen minutieux de ces informations sur cette personne. Et c'est exactement ce genre d'enquête dont il est question dans la purification présente du sanctuaire céleste. Et donc c'est de ça dont il est question maintenant. C'est que cette purification du sanctuaire est véritablement un jugement. Et c'est pour ça que dans Apocalypse chapitre 14 verset 7, nous lisons que nous sommes appelés à craindre Dieu et à lui donner la gloire parce que l'heure de son jugement est venue. Et nous avons l'image de l'ancien des jours qui entre dans le lieu très saint et de Jésus, du Fils de l'homme qui entre et qui se place à la droite du Père dans le lieu très saint et que le jugement se tient et que les livres sont ouverts. Et c'est ce que nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 4, au verset 17, c'était notre lecture biblique. L'apôtre Pierre disait « Car le temps vient où le jugement doit commencer par la maison de Dieu, et s'il commence par nous, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu ?» Donc le jugement est en réalité réservé aux personnes qui font partie de la maison de Dieu. Car parce qu'il est écrit, le jugement doit commencer par la maison de Dieu. La maison de Dieu, ce sont les croyants en Jésus-Christ. De la même manière que le jour des expiations ne concernait, au temps des Hébreux, seulement le peuple d'Israël, ceux qui étaient les enfants de Dieu et qui connaissaient et qui étaient soumis à l'Éternel. Donc, c'est de cela dont il s'agit de rendre gloire à Dieu en obéissant à l'évangile de Dieu. Et obéir à l'évangile, c'est toute une activité parce que les activités principales de l'évangile, c'est que nous sommes appelés à nous repentir et d'avoir foi en Jésus-Christ. Et obéir à l'évangile, c'est entrer dans cette activité-là, obéir à la bonne nouvelle. Pour obéir à la bonne nouvelle, il faut accepter que c'est une bonne nouvelle. Il faut donc admettre que je suis dans une réalité qui n'est pas bonne. Parce que je suis pécheur et que Jésus-Christ a été donné pour sauver son peuple de ses péchés. Et c'est la bonne nouvelle que un sauveur nous est donné, un fils nous est né. Et donc maintenant, dans cette série que nous avons commencée, nous allons vouloir poursuivre sur ce que cela veut dire de rendre gloire à Dieu. Nous avons pris ce temps aujourd'hui pour poser un fondement sur lequel nous pouvons ensuite bâtir. Le fondement, c'est que pour pouvoir comprendre que les paroles d'Apocalypse chapitre 14, versets 6 à 7 et suivants s'appliquent bel et bien à notre réalité aujourd'hui et ne sont pas destinées à un moment futur ou à un moment passé, il nous faut comprendre qu'elles sont directement liées à la prophétie des 2300 matins et soirs de Daniel chapitre 8, verset 14, et qu'étant liées, la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui est celle de la purification du sanctuaire ou d'une enquête judiciaire dans laquelle nous sommes examinés. Comme c'est écrit que le jugement doit commencer par la maison de Dieu. Nous sommes examinés dans ce jugement et nous sommes donc appelés à rendre gloire à Dieu et à comprendre ce que cela veut dire de rendre gloire à Dieu. Dans notre étude précédente, nous avions appris que nous avons besoin d'être changés de gloire, en contemplant la gloire du Seigneur. Nous avons appris que pour être changés de gloire en gloire, il nous faut contempler Jésus. Et que nous contemplons Jésus en étudiant sa vie telle qu'elle nous est présentée dans sa parole. Aujourd'hui, nous avons posé le fondement de la purification du sanctuaire qui est le sujet clé autour duquel de nombreuses vérités ont été révélées au peuple des dieux à partir de cette période du désappointement. Après la date du 22 octobre 1844. Et donc, on veut conclure aujourd'hui en allant dans 1 Corinthiens, chapitre 10, au verset 31. 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, nous lisons « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, ou que vous fassiez quelque autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Faites tout à la gloire de Dieu. » Donc le jugement se tient sur la maison de Dieu. Nous sommes examinés, nos caractères sont comparés à la règle morale divine, la loi de Dieu, et nous voulons faire toute chose à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu, ça ne veut pas dire juste chanter les louanges de Dieu et dire gloire à Dieu, chanter gloire à Dieu. Ce n'est pas ça. Vivre à la gloire de Dieu, cela veut dire faire tout en harmonie avec sa règle divine, la loi des 10 commandements. Et vous allez me dire, mais dans la loi des 10 commandements, il n'y a pas tous les descriptions, des détails de comment je dois boire et manger. Mais la gloire de Dieu, c'est son caractère. Et en Jésus, le caractère de Dieu, la gloire de Dieu nous a été présentée comme nous l'avions vu précédemment. Nous voyons maintenant Jésus qui est l'empreinte même du Père. Et en Jésus, nous allons voir tous les petits détails qui nous montrent comment est-ce que nous pouvons manger et boire et faire toutes les autres choses à la gloire de Dieu. À la gloire de Dieu. C'est ce que nous voulons faire. Nous n'avons pas d'autre objectif si nous sommes réellement consacrés au Seigneur que de vivre à la gloire de Dieu, parce que aujourd'hui, le sanctuaire est ouvert et nous voyons Tiens, d'ailleurs, nous allons y aller pour terminer. Voilà. L'apôtre Jean a vu en vision le ciel ouvert et il a vu quelque chose qui nous concerne directement en ces derniers jours. Et c'est ce genre de choses qui ont fait que ceux qui s'appelaient autrefois adventistes ont fini par s'appeler adventistes du septième jour. Parce que ils ont vu quelque chose dans cette vision de l'apôtre Jean qui leur a révélé que l'activité nouvelle de la purification du sanctuaire leur révélait de nouveaux devoirs et une nouvelle règle de vie selon laquelle ils devraient désormais vivre à partir de cette découverte. C'est écrit dans Apocalypse chapitre 15, verset 5. Après cela, je regardais et voici le temple du tabernacle du témoignage s'ouvrit dans le ciel. Cette vision, cela concerne directement cette période que nous avons vue dans Daniel chapitre 7 au verset 9, 10 et 13, cette partie où le Père et le Fils sont dans le lieu très saint et le sanctuaire est en train d'être purifié, le jugement se tient, les livres sont ouverts et l'apôtre Jean voyait le temple du tabernacle du témoignage ouvert dans le ciel. Le temple du tabernacle du témoignage, cela parle de l'endroit, de l'appartement, du lieu où se trouvaient les tables de l'Alliance, qui s'appellent aussi les tables du témoignage. Et ces tables se trouvaient dans l'arche de l'Alliance, et cette arche se trouve dans le lieu très saint. Et c'est là que se trouve la loi de Dieu qui doit être le critère par lequel l'enquête judiciaire est menée. Et donc, soit que vous mangiez, soit que vous buviez ou que vous fassiez toute autre chose, faites tout à la gloire de Dieu. Puisse le Seigneur affermir nos pensées, ceindre notre esprit par la vérité. Et par la grâce de Dieu, nous allons continuer notre méditation sur ce que cela veut dire de faire toute chose à la gloire de Dieu. Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue. Amen.